Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
J'ai invité ce soir Gabriel Robin, ambassadeur de France, ancien conseiller diplomatique du président Giscard d'Estaing, ancien directeur des affaires politiques au Quai d'Orsay, et dont le dernier poste a été celui de représentant permanent à l'OTAN. Bonsoir Gabriel Robin.
Bonsoir Régis Debray.
Voilà, je vous ai invité parce que je suis un lecteur attentif et admiratif de vos ouvrages, Un monde sans maître, chez Odile Jacob et le dernier, Entre empire et nation. Alors, vous avez été donc à l'OTAN pendant de 1987 à 1993, au moment de la chute du mur de Berlin. Donc j'ai envie de vous demander... comment l'OTAN a assimilé en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler sa victoire.
En effet, c'est une histoire assez intéressante parce que il est évident que avec la chute du mur de Berlin, tout le monde s'est bien rendu compte que l'OTAN avait accompli sa mission, que elle n'avait plus d'ennemis. Du reste, les Soviétiques ne se privaient pas de le dire. Nous allons vous faire une grande méchanceté, nous allons vous priver d'ennemis, disait-il. Et donc, normalement, on aurait dû se poser la question de savoir si l'OTAN allait subsister. Or, en réalité, la question ne s'est pas posée parce qu'elle ne pouvait pas se poser. Les Américains ayant, dès le départ, préempté le sujet en se montrant à la fois très favorable à la réunification allemande, ce qui n'était pas un sentiment si général à l'OTAN. Il faut se souvenir que les Anglais, en réalité, n'en voulaient pas, que les Français traînaient plus ou moins.
Il y a toujours le monde de François Mauriac. Voilà, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux.
Il y en ait deux, absolument. Oui, et ça traduisait en effet le sentiment profond des gens. Et parmi les autres, c'était à peu près pareil. Donc, les Américains étaient très pour la réunification allemande, mais ils disaient il faut que l'Allemagne réunifiée reste dans l'OTAN. Et donc, vouloir poser la question de l'OTAN, c'était se rompre en visière directement avec les Américains, c'était se faire les alliés indirects, mais tout à fait clairs, de l'Union soviétique, qui en effet rêvait de neutraliser l'Allemagne réunifiée entre les deux alliances ou qui plaidaient pour la disparition des deux alliances, le pacte de Varsovie d'un côté et l'OTAN de l'autre. Et donc, on s'est trouvé amené à se poser la question autrement et à se dire à quelles conditions on peut faire accepter, parce qu'il y avait quand même les Russes qui n'en voulaient pas, eux, de l'OTAN.
Et ils avaient déjà dissous le traité du pacte de Varsovie.
Non, pas
ils allaient le faire.
Oui, ils allaient le faire. Ça a commencé à sentir le pourri. Enfin, mais les Allemands étaient quand même assez tentés de lâcher du lest sur ce point. Ils n'étaient pas, considéraient pas que l'OTAN était un absolu. Et par conséquent, il y avait un jeu et il y a eu une négociation en réalité. Et les Américains s'en sont tirés en disant on va garder l'OTAN, il faut garder l'OTAN, mais on va changer son image. Et alors ils se sont affairés pendant, et non sans succès, pendant quelques mois, à dire mais l'OTAN n'est pas l'espèce de forteresse rébarbative, hérissée de missiles.
Oui, c'est une organisation de bienfaisance
elle
pour maintenir la paix mondiale.
Elle n'a pas de noir dessin, voilà. Elle veut maintenir la paix, elle est défensive, elle est pacifique, elle est ouverte, elle est accueillante, elle est avenante. Et ils ont invité à l'OTAN à venir à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères des pays du pacte de Varsovie, en commençant naturellement par les satellites, et puis ensuite leur premier ministre, puis ensuite même les ministres de la Défense sont venus. À tous, on développait le tapis rouge, on les recevait avec des fleurs. Et tout ça a assez bien marché, d'autant plus que ça correspondait aux vœux plus ou moins secrets de ces pays qui déjà songeaient à prendre leur distance avec Moscou et se préparaient en été à changer de camp, quoi. Donc tout ça a masqué pendant un temps l'affaire. Alors il y a eu quand même de la substance, il n'y a pas eu que de l'image. Il y a eu de la substance parce que dans la négociation des 4 plus 2, qui était une négociation des 2 plus 4, il a été entendu que l'OTAN, la partie intégrée de l'OTAN, la structure intégrée de l'OTAN, n'irait pas en Allemagne de l'Est. Donc l'OTAN intégrée continuerait de s'arrêter à la frontière entre les deux, l'ancienne frontière entre les deux Allemagnes, et qu'il n'y aurait même pas de manœuvre militaire en Allemagne de l'Est, sauf exception. Et donc,
mais tout ça a été dit, et
tout
non
ça,
pas écrit.
Tout ça a été écrit. Ça, c'est écrit.
Écrit.
Ça, c'est écrit. C'est dans le traité, ça. Mais ce qui ne l'était pas et qui était sous-entendu et qui a été compris à l'époque comme acquis, c'est que si on n'allait pas en Allemagne de l'Est, à plus forte raison on n'irait pas en Pologne, on n'étendrait pas l'OTAN à la Roumanie, à plus forte raison aux Pays-Baltes et ainsi de suite. En tout cas, les Russes ont été fondés, à mon avis, à comprendre que c'était, en tout cas dans cet esprit, les Américains multipliaient les déclarations en disant que c'était pas question de s'approcher des frontières de l'Union soviétique, aucune intention hostile, etc.
Oui, mais alors là,
alors, tout ça, c'était des mots,
Gorbatchev dit, mais moi je les ai crus sur leurs paroles, mais je n'ai pas de texte écrit.
Non, c'est vrai, il n'a pas de texte écrit. Leurs paroles étaient retranscrites dans les écrits, mais c'était que des paroles.
Voilà.
C'était pas du tout des engagements, naturellement. Et naturellement, les choses ont évolué, et puis la nouveauté, naturellement, c'est que ce sont ces pays eux-mêmes qui ont demandé. Alors après ça, on dit, mais puisqu'ils veulent, on ne va pas.
Oui,
c'est ça. Donc, la question de l'avenir de l'OTAN, comme ça, a été occultée, escamotée pendant un certain nombre de mois et presque d'années, si bien qu'elle a fini par rester dans le paysage, quoi. Elle était là. Bon. Alors, il y a quand même, on s'est tout de même dit,
à quoi
on garde l'OTAN, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle était quand même désœuvrée. Alors, on s'est gratté la tête pour savoir qu'est-ce qu'on allait lui faire faire. Et alors, je me souviens d'un papier du secrétaire général de l'OTAN, qui était naturellement un papier de ses services, et qui consistait à dire, ah oui, il y a le trafic d'armes, on pourrait peut-être s'occuper du trafic d'armes, des ventes d'armes.
Il y a la piraterie peut-être aussi.
Enfin, finalement, après avoir beaucoup cherché, on a fini par trouver un truc, parce que c'était l'époque où l'ONU reprenait un peu de poil de la bête, et commençait à entreprendre quelques opérations de maintien de la paix. On s'est dit, l'OTAN va être le soldat de l'ONU. Et sans s'apercevoir que, naturellement, si l'OTAN devenait le soldat de l'ONU, c'est l'OTAN qui déciderait. Qu'il n'y avait aucune intention de se mettre au service, le doigt à la couture du pantalon, devant les instances.
Le secrétaire général de l'ONU.
Donc voilà. Donc alors il y a eu ça. Et puis alors il y a eu une autre bagarre, à quoi ça a donné lieu, qui a été alors française. Parce que les Français se sont dit, en effet, il faut changer l'OTAN, mais bon, le changement d'image, montrer qu'elle est pacifique, etc., ça c'est pour la galerie. Mais il faut avoir des choses plus sérieuses, et cette OTAN, dans l'esprit de Paris, était trop américaine et pas assez européenne. Donc il fallait européaniser l'OTAN. Ça a été la grande idée.
C'est le deuxième pilier, c'est une vieille idée, le deuxième pilier de l'Alliance Atlantique.
Absolument.
On en parle chaque décennie.
Et on a cherché pendant des mois à introduire dans les communiqués des phrases sur l'entité européenne de défense, l'identité européenne de défense, et qu'on a réussi à rien. Et moi, j'étais très sceptique sur cette bagarre. Non pas que je trouvais qu'il ne fallait pas européaniser l'OTAN, mais je pensais que ce n'était pas le bon terrain, parce que ça ne mènerait à rien, parce que ce n'était pas là qu'était le nœud de l'OTAN. Le nœud de l'OTAN, ce n'est pas qu'il est plus américain ou plus européen. Il est américain parce qu'il a une structure qui le permet. En réalité, le marché commun, ce qui en fait la différence avec beaucoup de traités de commerce, etc., c'est qu'il y a la commission. Il y a un organe supranational qui est chargé de penser, qui est détenteur, soi-disant, de l'intérêt commun. Eh bien là, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui était détenteur de l'intérêt commun, c'était Sacker. C'est-à-dire le général américain, commandant en chef en Europe.
C'est-à-dire la Maison Blanche, si on remonte la chaîne de commandement.
Absolument. Mais c'était lui qui, avec son état-major intégré, représentait en réalité la réalité de l'OTAN. Et tant qu'on ne touchait pas à ça, tout ça c'était des cautères sur des jambes de bois. On faisait des communiqués, mais sans portée. Et donc j'ai essayé de mener une négociation à quatre, qui était secrète, etc., et qui visait à changer l'OTAN, qui consistait à dire le général commandant en chef, qui actuellement est opérationnel, qui c'est lui qui décide des armes à convenir, des dispositifs, etc., on le mettrait en veilleuse. D'accord, c'est le généralissime pour le temps de guerre, mais nous ne sommes pas dans le temps de guerre. Donc pour le moment, il se met en retrait, et il a un état-major s'il veut, mais la réalité des choses, elle se passe au comité militaire, qui théoriquement, dans la structure de l'OTAN, était au-dessus du Sacker, mais qui en réalité était à sa botte. Et alors le président du comité militaire, les comités militaires c'était les représentants des chefs d'état-major des différentes armées nationales. Donc c'était une structure très multinationale, pas du tout supranationale. Et moi je disais, il faut donner le pouvoir qu'a Sacker, il faut le donner au président du comité militaire. Et à partir de ce moment-là, on se trouvera devant une alliance classique, où on sera à égalité avec les Américains, et il n'y aura plus cette espèce de...
Bon, j'imagine que vous avez perdu cette bataille.
Eh bien, j'ai perdu cette bataille parce que Paris n'a pas voulu l'amener. Finalement, au faire et au prendre, Paris,
c'était qui à l'époque ?
Paris, c'était Dumas. C'était Dumas, mais c'était les services. Je ne suis pas sûr que... Dumas lui-même avait là-dessus une idée absolument arrêtée.
Non, je pense que vous touchez un point sensible.
Mais ce sont les services qui s'étaient mis comme ça, parce que l'idée d'Europe était à la mode, naturellement, ça c'est vrai, qu'elle était dans la ligne de ce que pensait le gouvernement dans son ensemble. Mais je crois que c'était un mauvais point d'application, c'est tout. Ouais. Et j'ai observé que par la suite, les tentatives de Chirac, etc., pour obtenir je ne sais quel commandement...
Étaient de type cosmétique ou décoratif.
Mais absolument. Donc
alors j'ai envie de... Gabriel Robin, puisque nous sommes dans une période préélectorale et que la question... la politique internationale de la France va se poser, donc de notre rapport à l'Alliance Atlantique... À quoi sert aujourd'hui l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ? Je reprends le sigle original, ça n'est plus originel, mais qui est évidemment très dépassé, puisqu'on est aujourd'hui dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Mais à quoi ça sert l'OTAN aujourd'hui ? J'espère que les candidats aux élections présidentielles vont vous écouter.
Eh bien, la vérité, c'est qu'il ne sert à rien de ce pourquoi il avait été fait à l'origine, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il était fait pour protéger l'Europe occidentale du déboulé de l'armée rouge. Bon, ça, c'est terminé. Il n'y a pas d'invasion et il n'y a pas à se protéger contre une invasion inexistante. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste que un certain nombre de pays peuvent trouver intérêt à coopérer en matière... d'armes ou même de dispositifs militaires.
Oui, à condition que les armes soient interopérables.
Voilà.
C'est-à-dire soit aux normes...
Voilà, aux normes américaines.
Aux normes américaines. Voilà.
Mais tout ceci afin d'intervenir éventuellement à l'extérieur. Parce qu'en réalité, la seule utilité qu'ont des organisations militaires aujourd'hui, c'est pas de se défendre, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. C'est d'intervenir à l'extérieur. Alors, avec ou sans l'aval du Conseil de sécurité, là, une autre question. Mais en tout cas, c'est ça, l'utilité. Alors, ça, c'est la forme. C'est la réalité concrète, si on veut. Mais c'est l'apparence. C'est la superficie, en tout cas. Parce qu'il y a, au fond des choses, pour que l'OTAN ait subsisté, malgré son évidente absence d'utilité... Il faut qu'il y ait quand même autre chose. Et en réalité, cette autre chose, ça conduit à psychanalyser un peu nos petits amis européens.
Bah, l'autre chose...
L'autre chose, c'est qu'ils ne veulent pas d'autres patrons que les Américains. En tout cas, ils préfèrent le patron américain à un autre patron qui serait ou allemand,
ils préfèrent s'en remettre à un protecteur que d'assurer eux-mêmes leur protection.
Et en plus de ça,
Donc, il y a effectivement un aveu...
Alors, ce qui est plus sérieux, peut-être, c'est qu'en effet... On peut dire que l'existence de l'OTAN, par sa seule existence, seul fait d'exister, empêche les Européens de se disputer trop entre eux. Je veux dire que, par exemple, les conflits gréco-turcs auraient pu dégénérer plus autrement que s'ils n'avaient pas été tous les deux dans l'OTAN. Voilà. Et d'autres pays qui peuvent avoir des disputes sont quand même calmés du fait d'être tous les deux attelé au char de...
Enfin, vous seriez d'accord avec la définition qu'en donnait le général de Gaulle dans les années, je crois, 64 ou 65. L'OTAN est un instrument de l'hégémonie américaine.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question. Nous aimons, moi, en tant qu'homme de gauche, nous aimons les systèmes de sécurité collective, d'arbitrage international. Évidemment, le système de sécurité collective, aujourd'hui, pour tout le monde, c'est l'ONU. Comment vous appréciez le rôle effectif de l'ONU aujourd'hui? J'ai presque envie de vous dire, à quoi sert l'Organisation des Nations Unies?
Moi, je crois qu'elle est utile. Elle ne réussit pas toujours, mais elle est quand même... D'abord, elle est l'espèce de miroir dans lequel la communauté internationale se reconnaît. La communauté internationale, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas. Moi, je crois que ça existe. Je veux dire, un État n'est véritablement un État que lorsqu'il a été reconnu. Et qu'est-ce que ça veut dire, être reconnu? Ça veut dire être reconnu par la communauté internationale, devenir membre de cette communauté, en accepter les devoirs et en exercer les droits. Par conséquent, c'est dans cette organisation que la communauté internationale se reconnaît. Et deuxièmement, c'est à elle qu'elle confère la légitimité. Je veux dire, pour obtenir la légitimité d'une intervention, il faut avoir l'aval du Conseil de sécurité. C'est comme ça. Alors, on peut naturellement s'en passer. Il y a des pays qui s'en sont passés. Mais c'est généralement, c'est quand même un passif. Dans l'opération, ça n'est pas neutre. Oui. Ça existe. Et au contraire, quand on peut se prévaloir de cet aval, c'est un plus. Ça, c'est pas nul pour le plan politique.
C'est pourquoi les Palestiniens ont voulu absolument un poste, en tout cas, d'observateur.
Et absolument.
Enfin, ça, c'est le symbolique. Je ne dis pas le décoratif, mais c'est le symbolique. Mais...
Je ne crois pas que ce soit du symbolique. Il faut bien voir que la difficulté, le vice congénital de la défense collective, de la sécurité collective, c'est que ça consiste en réalité à transférer un conflit bilatéral, local, quelque part, en un arbitrage international. Mais on change d'échelle, mais ce sont toujours les États qui vont décider. Et transférer une querelle de l'échelon local à l'échelon global, c'est prendre un grand risque, parce que on peut résoudre le conflit local, mais on peut aussi provoquer la métastase du conflit entre les grands. Et alors là, c'est pire. On a rendu les choses encore pires.
Pouvez-vous donner un exemple pernicieux?
La guerre froide en est un exemple. C'était impossible de porter quelque conflit que ce soit devant l'ONU, parce qu'on savait qu'il y avait le veto soviétique. Et ce veto, il est très sage quand même. Parce qu'il veut dire que si on veut aller contre ce veto, ça veut dire que le conflit n'est plus le conflit local dont sont occupés, qui a motivé le veto, mais le conflit entre l'Amérique et l'Union soviétique. Et alors c'est organiser la guerre de tous contre tous. Donc je crois finalement, moi, que l'ONU a été assez sagement conçu. Alors il est très inégalitaire, les grandes puissances se sont taillées la part du lion, mais c'est comme ça qu'est la réalité du système international. Les grands, il vaut mieux qu'ils se disputent pas entre eux. Donc on a fait en sorte qu'ils se disputent pas entre eux. Donc ils ont un droit de veto, de se retirer des conflits. Et en revanche, pour les conflits, alors c'est des conflits locaux, mais enfin les opérations de maintien de la paix, il y en a, je sais pas, il y en a des dizaines maintenant. Il y a des casques bleus qui sont un peu partout. Alors, on dira que ça ne résout pas les conflits. C'est vrai, pas tous.
Ça les gèle.
Mais ça les gèle. Ça les gèle. Et ça évite qu'ils ne dégénèrent.
Qu'ils n'empirent.
Qu'ils n'empirent. Bon. Donc, c'est pas rien, je veux dire.
D'accord.
Mais ça me ramène ça à mon idée du... Moi, je crois qu'il y a un système international et qui ne subsiste que parce que il est systématique, précisément, qui fait système. Il y a, en réalité, notre monde est composé d'un grand nombre d'États, mais il est fait d'États. Ce sont les États qui le composent.
Paradoxalement, des États souverains.
Il y a des États souverains.
Le mot souverain est mal vu aujourd'hui, mais vous faites remarquer qu'il est à la base de la Charte des Nations Unies,
absolument,
finalement.
Mais absolument. Et du reste, la Charte la respecte tout à fait. Donc, il y a... À cet aspect-là, ce monde est fait d'État-nation, et en même temps, il est mondialisé. C'est ça, cette... Et les deux ne sont pas contradictoires. Les deux s'appellent l'une l'autre. Les États ont besoin de la communauté mondiale, ils fonctionnent. Et la communauté mondiale, elle est faite des États. Alors, on peut dire qu'il y a d'autres forces que les États qui interviennent. C'est vrai, mais elles interviennent de façon subsidiaire. Jamais de façon principale et en tout cas jamais de façon aussi légitime. Pour être légitime, quelque chose doit avoir été consacré par les États. Si ce n'est pas consacré par les États, c'est intéressant, ça peut être efficace, ça peut être ceci ou cela, mais ça n'est pas légitime. Et donc ce système est quand même très, très cohérent, je trouve.
Gabriel Robin, si je vous comprends bien, souveraineté n'est pas pour vous un gros mot, c'est même paradoxalement la base du système onusien. Mais vous appartenez à une tradition de pensée pour laquelle il y a un axe directeur pour toute politique internationale et qui est l'intérêt national. Beaucoup sont de cet avis, mais on demande souvent à ceux-là, qu'est-ce que c'est que l'intérêt national? N'y en a-t-il pas plusieurs définitions? Et au fond, est-ce qu'on ne donne pas une question pour une réponse en disant intérêt national? J'aimerais avoir votre, sinon votre définition, en tout cas votre approche de ce que ces deux mots veulent dire.
En effet, Régis Debray, moi je ne vous donnerai pas une définition, mais je vous dirai dans quel ordre se situe l'intérêt national et dans quel ordre il ne se situe pas. Les États ont toutes sortes d'intérêts économiques, culturels, diplomatiques ou simplement de protocoles. Mais ils ont des intérêts qui sont quand même hiérarchisés. Ils ont chaque fois à choisir entre différentes options et ils choisissent en fonction d'une priorité. Et finalement, l'intérêt national, c'est l'intérêt d'une nation. pas l'intérêt d'une religion, c'est pas l'intérêt d'une idéologie, c'est pas l'intérêt d'un roi ou je ne sais quoi, c'est l'intérêt d'une nation. Et l'intérêt d'une nation, l'intérêt suprême d'une nation, c'est de survivre. Et par conséquent, l'intérêt national, dans sa définition ultime, doit se situer au plan de la sécurité. Ce qui définit finalement l'intérêt national, c'est ce qui assure la vie, la survie de la nation. Et alors, ça ne se voit que dans les moments de crise, mais en tout moment, il y a une hiérarchie et on dit ce qui est politique, c'est ce qui concerne les rapports de force. Et les rapports de force, c'est évidemment lié à la capacité de survie. C'est ça qui est le... Et par conséquent, l'intérêt économique ne peut jamais être premier, si important qu'il soit. Alors, il faut qu'il n'y ait aucune conséquence défavorable de sécurité. Mais s'il y a sécurité d'un côté et économie de l'autre, la sécurité l'emporte toujours.
D'accord. Mais vous connaissez le mot célèbre, le nationalisme c'est la guerre, disait François Mitterrand.
Bien cette
le nationalisme c'est la guerre. D'autres disent non, c'est l'impérialisme qui est la guerre. Si on regarde la guerre de 14-18 ou la guerre de 39-40, c'est plutôt les empires qui s'affrontent. Alors comme vous avez fait précisément un livre entre empire et nation, j'ai envie de vous dire d'abord, qu'est-ce qui distingue une nation d'un empire? Est-ce qu'il n'y a pas des nations impériales? Alors, vous savez, moi, il m'arrive de penser que la victoire de Donald Trump, c'est la victoire de la nation américaine sur l'empire américain. C'est-à-dire de
c'est possible.
Ce tréfonds comme voir, ça, national, possible. Spontanément, et nous d'abord. Revenons à cette phrase qui est devenue, comme ça, répétée, à mon sens, sans grande réflexion. Le nationalisme, c'est la guerre. Que dites-vous face à cela?
Moi, je dis que c'est une erreur. Moi, je dis que c'est fou. Ce ne sont pas les... Moi, je ne crois pas que la guerre de 14 ait été déclenchée par les nations pour des raisons nationalistes. Elles ont été déclenchées et à regret, à reculons par les gouvernants pour des raisons très simples qui tiennent à l'équilibre général. Et l'équilibre général, c'est la notion qui va entre le rapport des forces et la survie. C'est l'équilibre qui garantit que vous existez. Pourquoi est-ce que la France est entrée en guerre? Pas du tout pour l'Alsace-Lorraine. Il ne faut pas croire que la France est entrée en guerre pour récupérer. Une fois qu'elle est entrée en guerre, naturellement, elle a voulu la récupérer. Mais ce n'est pas ça qui a été le phénomène déclencheur. Ce qui a été le phénomène déclencheur, c'est qu'elle ne pouvait pas laisser tomber la Russie. Sinon, elle n'avait plus d'alliés. Si elle n'avait plus d'alliés, elle retombait dans le système bismarckien où elle était coiffée, satellisée de l'Allemagne. Ça qu'il fallait éviter. Et par conséquent, elle est allée, elle n'a pas pu empêcher la Russie de mobiliser, et finalement ça a contribué aussi à déclencher la guerre. Mais c'est quand même ça la raison fondamentale. On ne peut pas en vouloir aux dirigeants de l'époque, ils ont été honnêtes, ils ont cherché ce qu'il y avait de mieux. Alors, ils n'ont pas prévu naturellement quel cataclysme ça serait. Alors la guerre de 39-45, c'est pas non plus la nation, ou alors il faut faire de Hitler un nationaliste, mais c'est pas vrai du tout. Hitler n'est pas un nationaliste, c'est un idéologue un peu fou à mon avis, et diabolique, enfin, une espèce de c'est autre chose. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit juste pour décrire les événements. Et je crois qu'en effet, c'est l'impérialisme qui est cause des guerres. Alors, une nation peut être impérialiste, naturellement. Elle peut verser dans l'impérialisme. Mais ce n'est pas sa vocation. Sa vocation naturelle, c'est d'exister parmi les nations, de maintenir son rang, d'exister. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est la vocation que je souhaite pour la France. Elle n'a pas besoin de... Elle a passé l'âge de l'impérialisme, je trouve.
Mais
elle
alors,
a plus les moyens et plus tellement...
Alors, Gabriel Robin, une question vient spontanément aux lèvres. Est-ce que l'Union européenne doit nous conduire à mettre au grenier ou à la cave la notion d'intérêt national? Et plus largement, est-ce que l'Union européenne nous a fait entrer dans une nouvelle ère des relations internationales, nous faisant quitter l'horizon de la guerre pour l'horizon de la paix? Autrement dit, a-t-on connu dernièrement, je veux dire ces 20 ou 30 dernières années, un saut qualitatif?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne ne nous a pas fait changer d'air. Ça n'a rien changé aux relations internationales. Ça s'est créé dans le cadre du monde de Yalta, du système de Yalta, qui était un système très très clair, avec deux pôles, américains et soviétiques, qui avaient ses règles de fonctionnement, etc. Et l'Union européenne s'est constituée dans ce cadre. Et non seulement dans ce cadre, mais en conformité à son esprit et pour en devenir un instrument, pour renforcer le côté occidental de l'équation Est-Ouest. Par conséquent, ça n'a rien changé. En revanche, ce qui a changé, c'est le système international. Et il a changé du tout au tout. Avec la chute du mur de Berlin, on a cru qu'on résolvait le problème allemand, mais en réalité, on a changé le monde. Et pas simplement parce que c'est un monde qui est avec une Allemagne unifiée en plus et un empire soviétique en main, mais parce que c'est l'ensemble de la structure mondiale qui a changé. Avant, c'était très clair, il y avait Est, Ouest, c'est tiers-monde.
Et maintenant,
il n'y a que les 200 États de la planète, les 200 États-nations dont nous parlions tout à l'heure, qui sont à l'ONU. Et ces États-nations veulent tous exister pour eux-mêmes et ne se considèrent pas comme liés indéfectivement ou subordonnés à qui, à tel ou tel. Et c'est un système qui, lui, n'aime pas les blocs. Il n'y a que en Europe qui, à cet égard, brille par son archaïsme, qui a conservé les institutions de la guerre froide.
Oui, parce qu'il y a L'OTAN, un bloc occidental.
Absolument. Mais partout ailleurs, partout où on pensait qu'on allait voir des petits frères ou petites sœurs du marché commun, en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a que des États, que le Brésil, l'Argentine, le Chili, à son côté, ainsi de suite pour l'Asie, et de même pour l'Afrique. Donc nulle part on a vu se constituer de blocs. Et ce monde de nations, ce monde qu'on pourrait croire émietté, qui est un monde qui est comme ça, n'aime pas les blocs. Et du reste, vous remarquerez que l'Europe, en dépit de ses efforts, n'est pas parvenue à se faire une place à l'ONU. Elle n'a pas de place dans le système, dans les institutions de ce monde. D'après le mur de Berlin, elle n'a pas de place. On la lui refuse. C'est pas fait.
Elle l'a demandé. Elle l'a demandé. Non.
Non, mais elle aurait bien aimé.
Oui, elle aurait bien aimé que la France et la Grande-Bretagne renoncent à leur droit.
Il y a quand même eu des gens qui auraient bien aimé que le siège permanent de la France soit partagé entre tous les Européens. Non, mais tout ça, c'est pas possible. Donc, ce système, il a ses défenses immunitaires. Il se laisse pas faire comme ça. Je veux dire, l'Europe. Alors, non seulement l'Europe est un corps étranger, finalement, dans ce système international, mais elle est devenue un danger public. Parce que s'il y a quelque chose qui a une tendance naturelle et probablement irrésistible à devenir impérial, c'est l'Union européenne. Les blocs sont naturellement impérialistes. Ils ne peuvent...
Mais l'Union européenne n'est pas simple. Elle n'a pas d'armée, l'Union européenne.
Elle n'a pas d'armée, mais elle s'agrandit, elle s'étend, elle est en expansion. C'est une espèce de gaz en expansion qui n'a pas de frontières, qui ne reconnaît pas de frontières. Vous avez fait un essai sur la frontière que je partage tout à fait, je devrais, et qui dit très très bien, la frontière c'est la limite, c'est se limiter soi-même. Et il se refuse à se limiter soi-même. Par conséquent, c'est dangereux, et on le voit bien quand même, l'affaire ukrainienne est née de l'Europe. C'est elle qui l'a provoquée. L'accord d'association, c'est elle qui est allée le chercher. Et cet accord d'association, elle savait parfaitement qu'il était en contradiction avec la zone de libre-échange qu'avaient créé les Russes.
Je me souviens, les Gabriel Robin, que vous aviez pronostiqué la guerre civile en Ukraine.
Mais tant que ça, c'est... C'est un des traits, à mon avis, qui est quand même très désespérant de cette Union européenne, c'est qu'elle est en train d'aller au rebours. Elle était là pour faire la paix en Europe et défendre les États européens. Elle a été faite pour favoriser la résurgence, enfin la renaissance des États européens. Et elle les conduit dans une espèce d'aventure sans issue. Je veux dire.
Oui, mais enfin, qui dit bloc, Gabriel Robin, dit puissance. Or, s'il y a bien quelque chose qui est de plus en plus irréel, c'est l'Europe puissance.
Mais précisément, c'est ça qui est le drame de cette Europe, c'est qu'à la fois elle nourrit le rêve de puissance et qu'en même temps elle alimente sa fragilité. L'expérience du président Hollande en Syrie est typique quand même. Il était persuadé qu'il représentait l'Europe quand il disait qu'il faudra aller frapper la Syrie, etc. Et puis au moment crucial, quand il s'est retourné, il s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne derrière lui, que l'Angleterre avait fait défaut et que les autres n'avaient jamais voulu s'engager. Et c'est comme ça toujours, l'Europe n'est pas faite pour ce genre, elle n'est pas structurellement, elle est trop divisée à l'intérieur d'elle-même pour se lancer dans des aventures. Et en même temps, elle donne une image tellement puissante d'elle-même quand on ajoute les chiffres les uns aux autres. En effet, on est les premiers, première puissance commerciale, etc. Et puis donc, ça vous donne des idées. On se dit quand même, on devrait pouvoir imposer quand même avec tout ça. Eh ben non, on ne peut pas. Et c'est ce divorce entre l'imagination qu'on crée et la réalité qu'on est, qui est à mon avis le danger majeur. Moi, je crois qu'il faut en finir avec cette Europe, et il y a longtemps, il y a même déjà un certain temps qu'il aurait fallu le faire.
Mais on a le sentiment que vous, au fond, que vous redoutez que l'Europe devienne une puissance et que, au fond, la somme des impuissances nationales vous semble à la limite préférable.
Ah oui, bien préférable. Ça évite les aventures qui, comme je le disais, ont toute chance de se terminer mal. À vrai dire, en plus de ça, on est bien obligé de constater que si l'Europe doit vraiment devenir un bloc, celui qui fournira le ciment de ce bloc, c'est pas nous.
Oui.
Bon, alors autant s'en passer, je trouve.
Alors, une question, Gabriel Robin. Est-ce qu'une France européenne et atlantique, en tout cas de l'Alliance Atlantique, même, elle est revenue dans l'OTAN. Est-ce que la France aujourd'hui peut avoir une diplomatie, peut avoir une politique internationale?
J'en doute un peu. Moi, je crois que la France, en réalité, elle a toujours une diplomatie. On a toujours.
Elle a des ambassades.
De bons observateurs, de bons analystes, etc. Et nous jouerons notre rôle dans les différents conflits, donnant notre avis. Mais je crois que nous n'avons plus de politique étrangère. Je veux dire que nous n'avons plus de ligne directrice autour duquel nous ordonnerions notre action extérieure, et parce que nous avons cessé d'avoir les instruments pour ça, que nous n'avons plus le goût. Nous disons, quand on se dit que c'est l'Europe qui doit avoir une politique étrangère, ça veut dire qu'il faut se garder d'en avoir une soi-même, sinon alors il faut obliger les autres à la partager, alors être impérialiste. Ou bien attendre que les autres se prononcent pour qu'ensuite il y ait un débat et que du débat sorte une opinion commune. Mais le fait de se taire, de s'imposer cette discipline, de ne pas prendre d'initiative parce que ça pourrait choquer tel ou tel partenaire, fait que n'agissant plus, on ne pense plus. On se dit que c'est pas la peine, c'est d'autres qui vont penser, qui vont décider, qui vont prendre l'initiative. Et l'autre, c'est comme toujours, c'est celui qui a gardé les mains libres, c'est-à-dire naturellement l'Amérique. Et par conséquent, on se prive non seulement des moyens d'une politique, mais même de la possibilité d'en avoir une.
Mais alors, avoir les mains libres, ça voudrait dire tout de même prendre quelques distances vis-à-vis de l'Europe et quelques distances vis-à-vis de l'OTAN. On n'en prend pas le chemin, me semble-t-il.
Non, on n'en prend pas le chemin, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne vois pas tellement bien quel est le risque qu'il y a à prendre.
C'est le dégoût du risque, en tout cas.
Oui, mais...
C'est le risque, le dégoût du risque.
Oui, mais c'est la peur de déplaire à ses partenaires, de déplaire aux protecteurs
américains. La peur de faire cavalier seul.
Mais en réalité, bon, c'est un mauvais moment à passer, ils se feront une raison. Quand De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958 aussi, il a effrayé beaucoup. Et puis bon, ils se sont fait une raison, ils ont traité avec lui, ils ont dit que c'était pas si méchant que ça. Et donc, moi, je crois que nous avons peur de notre ombre, véritablement. Constater que l'Europe n'est plus dans l'air du temps, dans le sens de l'histoire... C'est une constatation, c'est tout. Oui, ça ne veut pas dire qu'on va se brouiller, ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre. Ça veut dire simplement que chacun reprend ses billes et puis on va les jouer autrement, puis c'est tout.
Une question alors, au fond, le monde bipolaire de Yalta est tout de même mort. Aujourd'hui, on dit notre monde actuel multipolaire. Est-ce qu'un monde multipolaire peut vivre en paix? Et à quelles conditions? Est-ce que le multipolaire n'est pas l'éternel conflit? Et d'ailleurs, pourquoi pas? C'est peut-être le statut de l'espèce humaine. Mais je veux dire, autrement dit, le réalisme est-il le pessimisme aujourd'hui?
Oui. Là, je crois qu'il faut se faire une raison. Là, on n'éradiquera pas à 100% la violence dans le monde. La seule question qui se pose, c'est de savoir quel est le système qui comporte le moins de violence pour le plus grand, qui donne le plus de liberté pour le moins de violence en contrepartie. Alors, on avait le système de Yalta, qui était un système qui a comprimé un certain nombre de guerres, mais qu'en a créé d'autres dans le tiers-monde, mais qui avait un prix quand même très lourd, qui était la chape de plomb des blocs. On était subordonné. Bon. Avec le système qui a succédé au système de la guerre froide, nous avons au contraire une extraordinaire liberté. Les gens diraient peut-être licence excessive. Ouais. Chaque État est libre de faire ce qu'il veut, etc. En réalité, ça n'est pas vrai. Le système est plus cohérent et a plus de défense immunitaire qu'on croit. Il y a des institutions, le Conseil de sécurité, bon, qui est peu. Qui n'est pas rien. Il y a le droit international, qui n'est pas grand-chose, mais qui n'est pas rien. Mais il y a surtout une espèce de clause non écrite, mais extraordinairement efficace, qui est que ce monde ne veut pas d'hégémonie, ni régionale, ni universelle. Il n'en veut pas à l'échelle régionale, on l'a très bien vu. Quand Saddam Hussein s'est mêlé de dominer le Proche-Orient, il a fait l'unité de tous contre lui. Et les autres n'ont pas hésité à faire appel au grand méchant loup américain pour le mettre à la raison.
Attendez, mais nous, j'ai l'impression que l'hégémonie régionale des États-Unis sur la région Occident est assez bien acceptée par l'Europe.
Oui, oui, c'est vrai, mais c'est l'exception.
D'accord.
C'est l'exception.
D'accord.
Parce que, regardez, à l'intérieur même de l'Europe, il suffit que l'un quelconque des Européens, alors il s'agit en réalité de la France ou de l'Allemagne, donne l'impression de vouloir dominer le lot pour qu'aussitôt tous les autres se réunissent contre lui. Et ça ne peut pas arriver, il ne peut pas y avoir un bloc dominé.
D'accord. Écoutez, Gabriel Robin, il est très rare qu'on soit lucide dans l'analyse du monde. Ce qui est souvent un déversoir de chimères ou d'illusions. Et c'est important, le rôle de la chimère. Ça mobilise parfois, mais enfin, ça finit mal. Autrement dit, je crois qu'il est très, très... je dirais, pour nos auditeurs, il faut prendre des leçons auprès de Gabriel Robin. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut lire ses livres parce que c'est quelqu'un qui allie l'expérience concrète des choses et un autre élément qui tente à disparaître, qui est la vue d'ensemble. Nous vivons dans un monde de spécialistes et qui perdent l'intuition fondamentale, l'intuition de la totalité, de la mise en cohérence de la vie internationale. Et je tiens à vous remercier pour cette contribution à la conscience collective. Merci Gabriel Robin.
C'est moi qui vous remercie, Gilles Debray.
Les discussions du soir avec Gabriel Robin, Stéphane Desmonts et Laurence Genepin. Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.